Frédéric Jamet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la gestion de SSGA France. On va parler avec vous de marché et de perspectives. On voit les investisseurs qui sont largement revenus sur les marchés actions après les craintes au sujet de la Grèce notamment. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une alternative à ces marchés actions ou est-ce que toutes les gestions finalement sont obligées d'aller sur ces marchés?
Il y a toujours une alternative, mais clairement, on avait parlé il y a quelques années de grande rotation des obligations vers les actions, et je crois qu'avec le niveau extraordinairement bas des taux d'intérêt qu'on voit partout dans le monde, que ce soit, ça commence avec le Japon à moins de 1%, maintenant les États-Unis, la zone euro, il n'y a plus vraiment d'alternative. Stratégiquement, vous avez d'un côté des taux certes anormalement bas, mais qui offrent vraiment plus une perspective intéressante. Et de l'autre côté, des marchés d'actions qui sont quand même articulés sur d'un côté ces bas taux d'intérêt qui les soutiennent, de l'autre une croissance raisonnable de l'ordre de 3-3,5% au niveau mondial, et une valorisation qui globalement n'est pas excessive. Donc en termes stratégiques, on est vraiment toujours dans ce thème de la grande rotation ou la grande transition, si vous voulez.
Alors en même temps, il y a quand même des questions, notamment sur les marchés américains. On a vu Warren Buffett notamment évoquer une surévaluation des marchés actions. Alors on se dit, Warren Buffett, s'il dit ça, c'est quand même un grand connaisseur. Il a plutôt bien réussi, on a tendance à le croire.
Je crois que c'est peut-être plus un élément de timing. Si vous voulez, stratégiquement, les obligations sont chères, donc les actions sont pas chères et sont intéressantes. Alors maintenant, est-ce que c'est le bon timing pour y aller maintenant ou dans un mois ou il y a 3 mois? Au début de l'année, on était dans cette perspective un petit peu boulevard. Je dirais en mars-avril, on avait atteint une performance assez extraordinaire, 15 à 20%. Depuis, on a eu la Grèce qui a quand même un petit peu calmé. Maintenant, on a la Chine, même si c'est à peu près, je dirais, ponctuellement résolu. Mais on reste quand même sur une perspective qui est globalement très positive.
Du côté effectivement des risques aujourd'hui, on parlait de la Chine, est-ce que c'est pas sous-évalué comme risque? Alors on sait que c'est toujours compliqué les statistiques chinoises, mais certains disent qu'on est en dessous de ces 7% affichés en tout cas.
Alors on peut discuter des statistiques chinoises et clairement leur capacité à calculer un 7% le lendemain du trimestre peut susciter certaines questions. Maintenant ils sont plus d'un milliard. C'est la deuxième puissance mondiale, ils ont 3 milliards d'actifs, 3 trilliards d'actifs en dollars détenus sous forme directe ou indirecte. Donc même si on a des questions, alors on va avoir des questions sur la bourse chinoise avec les petits spéculateurs chinois qui ont fait un petit peu du yo-yo, on va avoir un peu des questions sur la gouvernance chinoise, on va avoir des questions sur les problèmes écologiques, les problèmes démographiques en Chine. Globalement, ça reste aujourd'hui, ou ça va rester la deuxième puissance mondiale, avec quelque chose qui est raisonnablement bien sous contrôle du Parti communiste chinois, donc quelque chose avec lequel il va falloir continuer à compter.
Donc il n'y a pas cette crainte, effectivement. C'est-à-dire que certains disaient finalement la Grèce c'est peu de choses par rapport à ces risques à venir sur la Chine qui a du mal à relancer sa machine.
Alors je crois qu'effectivement la Grèce de ce point de vue-là, ça a été, on a fait un focus assez extraordinaire qui est peut-être plus symbolique que significatif, puisque l'impact de la Grèce en termes de GDP, en termes financiers, aujourd'hui il est assez circonscrit. Finalement, qu'ils aient négocié, c'est mieux, ou qu'ils n'aient pas réussi à renégocier, somme toute, l'impact n'aurait pas été catastrophique. Peut-être un autre élément qu'il faut mettre en perspective, qu'on a un peu tendance à oublier, c'est que la Grèce, c'est un problème parce qu'ils sont endettés à 150-200% de leur GDP, mais somme toute, le Japon, il est endetté à plus de 200% de son GDP, personne n'en parle, et presque tous les pays développés, européens, États-Unis, etc., sont endettés entre 50 et 100% de leur GDP, sans que ça crée vraiment un problème. Bon, on sait qu'il faudra le résoudre, mais l'avenir est plus ou moins lointain, c'est pas un problème court terme, donc on a tendance à l'oublier. De ce point de vue-là, je crois qu'on s'est vraiment trop focalisé sur la Grèce.
Sur ce qui se passe aussi du côté des marchés pétroliers, on avait tendance au cours des dernières années, en tout cas, à regarder ce qui se passait sur les matières premières un peu comme révélateur de ce qui allait arriver. Aujourd'hui, quand on voit ces niveaux bas du pétrole, on se dit, mais l'économie mondiale, où elle va?
Alors, effectivement, on était avant avec un pétrole à 100 dollars le baril, et puis on est monté à 200 dollars, et là on pensait que ça allait atteindre 250. Aujourd'hui, on est à 50, plus ou moins quelque chose. Je crois qu'il y a deux éléments très importants qu'il faut voir dans cette notion de prix du pétrole. Deux nouveaux facteurs, si vous voulez. Le premier facteur, c'est les États-Unis qui sont maintenant devenus producteurs de nouvelles technologies pétrolières et nouvelles formes d'énergie à partir du pétrole. Ils ont un prix de revient qui est de l'ordre de 60 dollars le baril, et donc ça veut dire que dès que le prix du pétrole passe au-dessus de 60 dollars, ils vont arriver massivement sur le marché, ce qui va tendre à, si vous voulez, à limiter le prix aux alentours de ces 60 dollars. L'autre problématique, c'est la problématique des pays émergents producteurs de pétrole, certains pays du Golfe, des pays comme l'Iran, le Venezuela, etc., qui sont des pays aujourd'hui plutôt endettés ou plutôt en déficit budgétaire. Ils sont producteurs de pétrole et eux, leur problème, c'est obtenir des dollars. Et finalement, des dollars à n'importe quel prix. Donc, si jamais le prix du pétrole baisse, eh bien, ils vont devoir en vendre plus pour boucler leur budget. Et donc, là aussi, on a un phénomène qui est un petit peu auto-limitateur. Dès que le prix du pétrole monte, ils vont en vendre beaucoup plus. Ces deux éléments font penser qu'on risque de rester sur un prix du pétrole bas à court-moyen terme, avant que surgissent des vrais problèmes de stock ou des vrais problèmes, je dirais, d'environnement. De type effet de serre, etc.
Si on revient sur les marchés européens, on sentait quelques statistiques économiques un peu meilleures. On disait il y a un petit rebond économique. On avait vu ces flux d'investisseurs américains vers l'Europe. Est-ce que ça peut continuer? Est-ce qu'il y a un facteur de soutien, par exemple, le résultat des entreprises? Qu'est-ce qui soutient fondamentalement? On parlait au début de rapport obligation-action, mais sur le fond.
Alors, nous-mêmes, on reste violemment en faveur des actions européennes, notamment par rapport aux actions américaines. La zone euro, ça reste une zone où la croissance est la plus faible de toutes les croissances des autres zones. En revanche, c'est une des rares où la croissance est susceptible de monter. On va passer de 0 à 1, 1,5, alors que les autres, on est plutôt dans des croissances plus élevées qui risquent de baisser. Et ça traduit, si vous voulez, un peu un changement de régime. On passe vraiment d'une stagnation à un redémarrage de l'ère croissance. C'est quelque chose de structurel et on a les trois célèbres facteurs de soutien. Hein, la BCE qui va soutenir pendant encore un certain temps avec des taux négatifs, voire encore moins. L'euro-dollar qui aujourd'hui est plutôt très favorable aux actions européennes. Et ce n'est pas quelque chose qui va s'atténuer prochainement avec la Fed qui va remonter ses taux, et le prix du pétrole dont on vient de parler qui va rester faible, et pour lequel, je dirais, l'Europe se situe très clairement du côté de la consommation et pas de la production. Donc ces trois éléments vont vraiment servir de soutien, et pas seulement de soutien à court terme, c'est vraiment un soutien structurel à cette croissance qui redémarre.
Merci Frédéric Jamais d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.